n'a pas encore parlé de votre rapport à l'histoire. À l'histoire, soit en tant que processus, parce que dans certains textes, vous parlez de l'évolution de l'histoire. D'autre part, concernant les permanences et les invariants de l'histoire, ou les stabilités, on va dire, de l'histoire. D'autre part, on va dire, votre propre inscription dans l'histoire, votre œuvre, en quelque sorte. Et quatrièmement, cette jubilation que vous avez pu avoir à certains moments a tapé, a donné un coup de pied dans la fourmilière musicologique traditionnelle, c'est-à-dire cette vision un peu patrimoniale, on va dire, de l'histoire de la musique. Alors, où en êtes-vous, après cette dizaine ou quinzaine d'années, disons, de votre vision de l'histoire, au moins sous ces quatre aspects-là?
Alors je dirais que pour moi, je l'ai dit déjà, certainement vous connaissez probablement ce texte et cette citation, mais je la répète pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est que je prends la situation, une phrase de René Char, ou un titre de René Char qui s'appelle « La bibliothèque est en feu ». Et je pense qu'on doit mettre le feu à sa bibliothèque tous les jours, et que la bibliothèque renaisse comme un phénix de ses cendres, mais sous une forme différente. Pour moi, c'est intéressant justement, ce qui est intéressant, c'est de ne pas être étouffé par la bibliothèque. Je pense que nous sommes dans un siècle, non seulement dans la musique du reste, nous sommes dans un siècle où vraiment on a des capacités bibliothécaires ou des capacités d'accumulation de documentation absolument effrayantes. Plus on va, plus ces capacités de documentation, avec les moyens technologiques qui sont à notre disposition maintenant, plus on va vers une accumulation auprès de laquelle la bibliothèque d'Alexandrie devait être vraiment un enfantillage, absolument. Et donc, on risque d'être asphyxié. On risque d'être asphyxié pour deux raisons. Premièrement, l'âge d'or. Il y a toujours cette espèce de vue extrêmement, à mon avis, à mon sens en tout cas, extrêmement réactionnaire de l'âge d'or. L'âge d'or dans lequel nous ne sommes plus. Nous sommes dans l'âge des crises, nous sommes dans l'âge des catastrophes, et nous faisons toujours référence à un âge qui aurait été plus sage, plus productif, plus représentatif. Donc, c'est la première chose. Et deuxièmement, il y a ce complexe de l'authenticité de la reconstitution. Alors, qu'est-ce qu'on fait par exemple? Je ne parle pas de la musique seulement parce que je suis stigmatisé quelquefois comme quelqu'un qui refuse l'authenticité de la constitution baroque. Ce n'est pas ça qui m'inquiète beaucoup, je dois dire franchement. Mais, par exemple, j'ai vu ça quand j'étais à Rome il y a quelques années, quand on a, disons, décapé la chapelle Sixtine. Le bruit que ça a pu faire dans le milieu artistique est absolument incroyable. Parce que la discussion était du reste une discussion très, très profonde. Est-ce qu'on garde les chefs-d'œuvre tels qu'ils nous sont parvenus, c'est-à-dire avec la crasse sous laquelle ils nous sont parvenus, ou bien est-ce qu'on les décape et à ce moment-là, on redonne une certaine authenticité, dont on n'est pas sûr quand même, mais dont nous n'avons plus les moyens, que nous n'avons plus les moyens de percevoir comme les gens de l'époque les percevaient. C'est-à-dire que si nous percevons un rouge violent dans Michel-Ange, ça nous paraît un rouge violent qui a plus à faire avec Picasso qu'avec Michel-Ange. Tandis que les gens de l'époque de Michel-Ange voyaient ça comme un Michel-Ange, non pas comme un Picasso, comme ça, certainement. Donc, il y a quelque chose qui est vraiment très, très, très important là-dedans, c'est que on est tiraillé entre le respect, l'irrespect et la conservation à tout prix et l'oubli, tout simplement. Alors, personnellement, je trouve que la solution la plus pratique, en tout cas, c'est de mettre le feu à la bibliothèque chaque matin et de la retrouver le soir, si on en a besoin. Mais pas plus que ça et pas moins que ça. Ce qui est intéressant, c'est de dire qu'il y a des périodes qui nous intéressent et puis il y a des périodes qui nous intéressent moins. Et je ne parle même pas d'un point de vue personnel, mais d'un point de vue de l'époque. Des époques sont en phase avec certaines autres et elles sont moins avec d'autres. Je ne vois pas, par exemple, quand on parle de musique ancienne, on parle très souvent de musique baroque, très bien, mais je ne vois pas qu'il y ait beaucoup d'amateurs qui se précipitent sur la musique du XIVe siècle, très certainement. Et là, il est beaucoup plus difficile de parler d'authenticité parce qu'on a pratiquement aucun témoignage des exécutions de l'époque, alors qu'on peut avoir en tout cas quelques témoignages, même pas très fiables, sur le XVIIIe siècle. Donc vous voyez, je trouve qu'une civilisation, qu'une culture, alors pour parler plus généralement, qu'une culture qui ne sait pas se débarrasser de son passé, et qui même quelquefois tue son passé, est une culture faible, est une culture en voie de disparition ou en menacée de disparition. Une culture forte est une culture qui peut se débarrasser de ses antécédents et se débarrasser quelquefois avec violence de ses antécédents. Une culture faible est une culture qui se protège de ses antécédents, ce qui me paraît très dangereux.
Je rappelle que votre frère était bibliothécaire de cette école, et que donc le menacé voulait la bibliothèque tous les matins, vous pouvez créer des...
Il la retrouverait sans poussière, absolument.
Peut-être une dernière question.
Est-ce que vous penseriez justifier de faire une sorte d'analogie entre langage musical et société, disons, c'est-à-dire, enfin, ce dont on a parlé, les opérations sur le matériau, enfin, et puis les structures, etc. Est-ce que vous pensez qu'on pourra en faire une métaphore éventuellement de...
Oh, je pense que c'est très difficile de faire ce genre de métaphore. Une société ne se construit pas de cette façon-là. Une société ne se construit alors principalement avec des accidents, quelquefois avec des directives, mais souvent avec des accidents. Les idéologies peuvent dévier. C'est-à-dire qu'il est très difficile disons de faire un rapport avec une œuvre d'art qui est une œuvre, disons, avec une intention. La société se construit très souvent avec des intentions au départ, mais les intentions sont déviées en tout cas. Et donc il me paraît très difficile d'appliquer. Alors si vous parlez de la relation de la musique actuelle, celle qu'on fait avec la société, ça c'est un autre problème. C'est un problème qu'on appelle la musique pour les élites, la musique pour le peuple, etc. C'est un problème qui a été soulevé en particulier par les régimes communistes d'une façon très virulente même, avec des interdictions, avec des codes, avec vraiment. Je me souviens, je n'ai pas été spécialement marqué par cela, mais je me souviens que en 1948, il y a eu la directive de Zhdanov pour le Parti communiste et qui s'étendait donc tous les partis communistes européens. Se sont soumis à cette directive de Zhdanov pratiquement, et c'était sous prétexte de faire du bien à la société, on tuait complètement la capacité individuelle de créer. Et donc je trouve qu'il est très dangereux de vouloir absolument faire assimiler par une société des produits qui seraient des produits de pure consommation. Finalement, heureusement, ces directives n'ont pas... elles ont été tout de même à l'ordre du jour pendant très longtemps en URSS, mais dans la partie occidentale de l'Europe, c'est des choses qui ont paru assez vite tellement absurdes qu'elles n'ont pas eu cours pendant très longtemps. Mais le rapport de la société et de la création est un rapport très difficile à cerner, et je crois qu'il commence par le problème de l'éducation. Tant qu'on n'aura pas essayer en tout cas de résoudre le problème de la relation entre la culture et l'éducation, il y aura quelque chose qui clochera, si je peux dire, mais en même temps, sans oublier que tout le monde n'a pas la capacité de se hisser à un niveau de culture, soit qu'il ne le veuille pas, soit qu'il ne le puisse pas. Et c'est ce que je disais, même la 9e symphonie de Beethoven, le final de la 9e symphonie de Beethoven, qui est pris même comme jingle de l'Europe, eh bien, sera beaucoup, toujours, pour le moment en tout cas, et pour un avenir assez prévisible, sera moins populaire qu'un match de baseball en Amérique ou un match de football en France. Il y a quelque chose qui relève de l'effort de soi, d'une part, c'est-à-dire c'est un effort individuel que personne ne peut faire à votre place, et d'un autre côté, de l'éducation et de l'éducation culturelle, là où l'État a une grande responsabilité.